Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant prêcher la Bible telle qu'elle est. Nous arrivons à l'étude numéro 6 et le texte sera la voix qui parle. Il est dit dans Saint Jean chapitre 1 verset 1 « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Tout homme intelligent qui n'aurait pas été instruit dans les vérités du christianisme, venant à lire ce texte, conclurait probablement que l'apôtre Jean voulait nous enseigner que la nature de Dieu est de parler, de communiquer aux autres ses pensées. Et cet homme aurait raison. La parole, c'est le moyen par lequel nous exprimons nos pensées et appliquer ce terme au Fils éternel nous conduit à croire que l'expression est inhérente à la divinité que Dieu cherche toujours à parler à sa création. Toute la Sainte Bible soutient cette idée. En effet, Dieu parle. Non pas Dieu parla autrement ou autrefois, once upon a time, mais Dieu parle maintenant. He is speaking now. De par sa nature, il ne cesse de s'exprimer. Il remplit le monde de sa voix qui parle. La voix de Dieu dans sa création est une des grandes réalités dont nous avons à tenir compte. La raison la plus brève et la plus satisfaisante est celle-ci. Dieu dit, et cela fut ainsi. Le pourquoi de la loi naturelle, c'est la voix vivante de Dieu qui est immanente à sa création. Toutefois, la parole de Dieu qui donna naissance au monde ne peut signifier uniquement la Sainte Bible, car ce n'est pas une parole écrite ni imprimée, mais c'est l'expression de la volonté de Dieu parlant dans l'ensemble de toute la création. Cette parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu, remplissant le monde d'une potentialité vivante. La voix de Dieu est la force la plus puissante de la nature. En fait, c'est la force unique de la nature, car toute énergie n'existe que parce que le Verbe plein de puissance a été dit. La Sainte Bible est la parole écrite de Dieu, et parce qu'elle est écrite, elle est restreinte et limitée aux nécessités de l'encre, du papier et du cuir. La voix de Dieu, cependant, elle est vivante et libre, libre comme le Dieu souverain est libre. Les paroles que je vous dites, nous dit Jésus, sont esprit et vie. Notez Saint Jean, chapitre 6, verset 63. La vie se trouve dans les mots qu'on énonce. La parole de Dieu dans la Sainte Bible n'a de pouvoir que parce qu'elle correspond à la parole de Dieu dans l'univers. C'est la voix toute présente qui rend la parole écrite toute puissante. Sinon, elle serait réduite au silence entre les pages d'un livre oublié. Nous avons une conception un peu simpliste des choses, surtout quand nous imaginons le Dieu de la création entrant en contact physique avec les objets, les façonnant, les arrangeant et les construisant comme le ferait un charpentier. La Sainte Bible, elle nous enseigne autrement. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume chapitre 33, versets 6 et 9. Je répète, dans ce psaume il est dit, car l'Éternel dit, et les choses arrivent. Yahvé l'Éternel ordonne, et elle existe. C'est donc par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Notez Hébreux chapitre 11, verset 3. De nouveau, nous devons nous souvenir que Dieu fait allusion ici non à sa parole écrite, mais à sa parole orale, c'est-à-dire à sa voix qui remplit le monde, cette voix qui précède la Sainte Bible d'un nombre incalculable de siècles, cette voix qui ne s'est pas tue depuis l'aube de la création jamais, mais qui résonne encore d'une extrémité à l'autre de l'univers. La parole de Dieu est rapide et puissante. Au commencement, Dieu parla au néant, et celui-ci devint quelque chose. Le chaos l'entendit et devint ordre. Donc, si vous voulez, le chaos a entendu la voix de l'Éternel et ça a donné la possibilité d'avoir un ordre correct et parfait. Les ténèbres l'entendirent et sont devenues la lumière. Et Dieu dit, et cela fut ainsi. Ces expressions jumelées comme la cause et l'effet apparaissent tout au long du récit de la création dans la Genèse. Les dit expliquent les ainsi. Les ainsi sont les dit au présent continu. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Que Dieu est ici et qu'il parle sont donc deux vérités qui sont à la base de toutes les autres vérités bibliques. Sans elles, il n'y aurait aucune révélation. Dieu n'a pas écrit un livre et il ne l'a pas fait envoyer par un messager pour qu'il soit lu au loin par des intelligences laissées à elles-mêmes. Dieu a parlé un livre et il vit dans sa sainte parole. l'énonçant constamment et lui donnant le pouvoir de persister au cours des années. Dieu a soufflé sur l'argile et celle-ci est devenue homme. Il souffle sur les hommes et ceux-ci deviennent argile. Oui, retournez à la poussière, enfants des hommes. Dieu prononça ces paroles au moment de la chute et décréta la mort de tout homme. Et il n'y eut rien à y ajouter. La triste procession de l'humanité sur la face de la terre depuis la naissance jusqu'à la tombe, cela est une preuve que la parole originale de Dieu était suffisante. Nous n'avons pas donné assez d'importance à cette parole profonde de l'évangile de Saint Jean. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Changez la ponctuation à votre gré si vous voulez, et la vérité continue de demeurer. La parole de Dieu agit dans le cœur des hommes, comme la lumière agit dans l'âme. Dans le cœur de tous les hommes, la lumière brille, la parole résonne, et personne ne peut y échapper. Il doit nécessairement en être ainsi si Dieu est vivant dans son univers. Et l'apôtre Jean dit qu'effectivement, il en est ainsi. Même les personnes qui n'ont jamais entendu parler de la Sainte Bible ont reçu une prédication suffisamment claire pour que tout prétexte à ne pas croire soit à jamais banni de leur pensée. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée, croyez-moi, elles accusent ou se défendent tour à tour. Notez Romains chapitre 2, verset 15. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, elles se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc absolument inexcusables, tous ceux qui rejettent la sainte parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 20. La voix universelle de Dieu fut souvent appelée par les anciens hébreux la sagesse, et on disait qu'elle résonnait partout à la terre, cherchant une réponse de la part des fils de l'homme. Le 8e chapitre du livre des Proverbes commence ainsi. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? L'auteur décrit ensuite la sagesse, sous les traits d'une belle femme, se tenant au sommet des hauteurs près de la route, à la croisée des chemins. Elle fait résonner sa voix en chaque endroit, afin que personne ne manque de l'entendre. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Puis elle supplie les simples et les insensés de prêter l'oreille à ses paroles. C'est après une réaction spirituelle que soupire cette sagesse de Dieu, après une réponse qu'elle a toujours recherchée et qu'elle a rarement pu trouver. Ce qui est tragique, c'est que notre condition éternelle dépend de notre écoute. Or, nous avons entraîné nos oreilles à ne pas entendre. La voix universelle a toujours résonné et elle a souvent troublé les hommes, même quand ils ne comprenaient pas la source de leur crainte. Se pourrait-il que cette voix qui s'épanche comme une brume vivante dans le cœur des hommes et était la cause inconnue de la conscience troublée et du désir d'immortalité confessé par des millions d'hommes depuis l'aube de l'histoire telle qu'on la connaît. Nous ne devons pas craindre de l'envisager. Oh oui! Voyez-vous, la voix qui parle est un fait. N'importe quel observateur peut noter la façon dont les hommes y ont réagi. Quand Dieu parla du haut des cieux à notre Seigneur, des hommes qui l'entendirent, mais qui n'étaient centrés que sur eux-mêmes, l'expliquèrent par des causes naturelles. Il disait, « Oh, c'est une sorte de tonnerre !» Voyez-vous, cette habitude d'expliquer la voix en faisant appel à une loi naturelle, elle est à la base de la science moderne. Dans le cosmos imprégné de vie, il y a un je ne sais quoi de mystérieux, trop merveilleux et trop terrible pour être compris de l'homme. Le croyant, lui, ne prétend pas de tout comprendre. Il tombe simplement à genoux et il murmure « Dieu, mon Père ». L'homme de la terre s'agenouille aussi, mais non pas pour adorer. Il se met à genoux pour simplement tout examiner, chercher, trouver le pourquoi des choses. À l'heure actuelle, nous vivons dans un âge séculier. Nos habitudes de pensée sont celles de l'homme de science, et non celle du croyant. Nous sommes plus enclins à expliquer qu'à adorer. C'est peut-être le tonnerre, nous exclamons-nous, et nous allons notre chemin terrestre tranquillement. Cependant, la voix se fait toujours entendre et cherche toujours. L'ordre et la vie du monde dépendent de cette voix. Mais les hommes sont pour la plupart beaucoup trop occupés ou trop têtus pour lui prêter attention. Actuellement, au Texas, aux USA et à d'autres endroits sur cette planète, il y a une catastrophe qui est comparée à quelque chose du jamais vu, puisque même le président a décrété que c'était la plus grande catastrophe de tous les siècles. seule une minorité de personnes ont compris que Dieu avertit l'humanité. Il y a, au bord de la mer en Angleterre, des régions où les gens doivent fermer les portes et les fenêtres parce qu'il y a une pollution venant de la mer inconnue jusqu'à nos jours, mais très très grave. Sans compter toutes les catastrophes dans toutes les parties du monde, que ce soit en Chine, que ce soit en France voisine, eh bien, toutes les cultures à certains endroits ont été détruites. Chacun d'entre nous a eu des expériences que nous avons été incapables d'expliquer. Une sensation soudaine de solitude ou un sentiment d'émerveillement ou de crainte en face de l'immensité de l'univers. Ou bien nous avons vu un éclat fugitif, telle une illumination qui serait venue d'un autre soleil, nous donnant en un éclair l'assurance que nous sommes d'un autre monde, que notre origine, elle est vraiment divine. Ce que nous avons vu là, ou que nous avons senti, ou que nous avons entendu, a pu être contraire à tout ce qu'on nous avait enseigné dans les écoles, et a pu être à l'opposé de nos croyances et de nos opinions d'autrefois. Nous avons été contraints, momentanément, de reléguer aux oubliettes tous nos doutes qui ont été acquis pendant que l'espace d'un éclair, les nuages se repliaient, nous laissant entendre et voir par nous-mêmes. Expliquons ces choses comme nous le voulons, mais je pense que nous ne sommes pas honnêtes quant aux faits tant que nous n'admettons pas au moins la possibilité que de telles expériences viennent de la présence de Dieu dans le monde et de ses efforts incessants pour communiquer avec les hommes. Alors ne rejetons pas une telle hypothèse trop à la légère. Chers amis, mon opinion personnelle est ici. Je ne me sentirai pas offensé si personne ne me suit dans cette idée. C'est que toute chose bonne et belle, produite par les hommes, produite dans le monde, ont été le résultat d'une réponse à la voix créatrice résonnant dans le monde, réponse, il est vrai, défectueuse et entravée uniquement par le péché. Comment pouvons-nous expliquer les philosophes de la morale qui ont fait de grands rêves de vertu, les penseurs religieux qui ont spéculé sur Dieu et sur l'immortalité, les poètes et les artistes, les musiciens exceptionnels qui ont composé des choses inoubliables et impossibles à refaire aujourd'hui. Oui, comment expliquer tout cela? Il ne suffit pas de dire simplement « ces gens-là étaient peut-être des génies ». Qu'est-ce que le génie alors? Se pourrait-il qu'un génie soit un homme ou une femme, hanté par cette voix qui parle, travaillant et luttant comme un possédé en vue de fins qui ne comprend que très vaguement. Qu'un grand homme ait pu ne pas voir Dieu dans son travail, qu'il ait même pu parler ou écrire contre Dieu, cela ne détruit pas l'idée que nous avançons ceux qui ont compris. La révélation rédemptrice de Dieu dans l'Écriture sainte est nécessaire à la foi salvatrice et à la paix avec Dieu. La foi en un Sauveur ressuscité est absolument indispensable si nos vagues aspirations vers l'immortalité doivent nous amener à une communion paisible et satisfaisante avec Dieu. Voilà, quant à moi, une explication plausible pour tout ce qui a quelque valeur en dehors de Christ. Mais vous, vous pouvez être un bon chrétien et vous avez le droit de ne pas accepter cette thèse. Ô chers amis, la voix de Dieu est une voix amie. Aucun homme ne doit avoir peur de l'écouter, à moins qu'il n'ait déjà décidé de lui résister. Le sang de Jésus a couvert non seulement la race humaine, mais aussi toute la création. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang précieux de sa croix. Notez Colossiens, chapitre 1, verset 20. Nous pouvons prêcher en toute sûreté un paradis plein d'amour. Les cieux, comme la terre, sont remplis de la bonne volonté, de la bonne volonté de celui qui s'est manifesté dans le buisson ardent. Le sang parfait du rachat nous en donne l'assurance pour toujours. Quiconque voudra écouter, il entendra la voix céleste. Nous ne vivons manifestement pas à une époque où les hommes acceptent facilement des exhortations à écouter, car de nos jours, l'écoute ne fait pas partie de la religion populaire. Nous sommes en fait au point diamétralement opposé de la véritable écoute. La religion a accepté la monstrueuse hérésie que le bruit, l'importance, l'activité et l'agitation et d'être connecté en tout rendent un homme cher aux yeux de Dieu. Mais prenons courage. À un peuple qui est pris dans la tempête du dernier grand conflit, eh bien Dieu dit « Arrêtez !» Et sachez que je suis Dieu. Et il continue de le dire, comme s'il voulait nous signifier que notre force et notre sécurité ne sont pas dans le bruit et être connectés en tout avec la science moderne, mais dans le silence. Il est important que nous fassions de temps en temps silence pour espérer en Dieu. De plus, il est préférable que nous nous mettions à l'écart Et mieux encore, la Sainte Bible ouverte devant nous. À ce moment-là, si nous le voulons, nous pouvons nous approcher de Dieu et nous pouvons commencer à l'entendre parler à nos cœurs. Je pense que pour une personne normale, la progression se fera peu à peu, près, vraiment ainsi. D'abord, nous sentirons un frôlement, comme si une présence marchait dans le jardin. Puis tout à coup, il nous semblera d'entendre une voix intelligible. L'heureux instant où l'esprit commence vraiment à illuminer les saintes écritures et ce qui n'était que un son ou au mieux une voix lointaine devient maintenant une parole intelligible, chaude, intime et claire comme la parole d'un être cher. Enfin, viendront la vie et la lumière, et mieux que tout, la possibilité de voir Jésus-Christ, de se reposer en lui et de l'étreindre comme étant notre Sauveur, notre Seigneur et notre tout. La Sainte Bible ne sera jamais un livre vivant pour nous tant que nous ne serons pas convaincus que Dieu parle dans son univers. Sauter d'un monde impersonnel et inerte à une Bible dogmatique, cela est beaucoup trop pour beaucoup de gens. Ils admettent au besoin qu'ils devraient accepter la Sainte Bible comme étant la parole de Dieu, et ils peuvent s'efforcer de penser ainsi, mais il leur semble impossible que les mots qui sont là sur la page, soient réellement pour eux. Un homme peut dire « Oh, ces mots s'adressent à moi ». Et il peut le penser. Cependant, dans son cœur, âme et esprit, il ne sentira ni ne comprendra qu'ils sont vraiment pour lui. Car il est victime d'une psychologie partagée. Nous avons, la plupart d'entre nous, des cœurs partagés. Il essaie de penser à un Dieu parlant éventuellement, pourquoi pas, seulement dans un livre, mais qui est absolument muet partout ailleurs. Je pense que beaucoup de notre incrédulité religieuse, elle est due à une fausse conception de la sainte parole de vérité et à un sentiment faux à son sujet, à savoir qu'un Dieu silencieux commença à parler dans un livre et qu'une fois le livre achevé, ce Dieu retomba dans le mutisme pour toujours. Aujourd'hui, nous lisons ce livre comme étant le témoignage de ce que Dieu a dit quand pendant un bref instant, il se sentait d'humeur à parler. Avec de telles notions en tête, comment pouvons-nous croire? Le fait est que Dieu n'est pas silencieux et il ne l'a jamais été. Il est dans sa nature de parler. La deuxième personne de la Trinité, elle est appelée la parole. La Sainte Bible est le résultat inévitable du discours permanent de Dieu. C'est la déclaration infaillible de sa pensée envers nous, mis en termes humains et familiers. Je pense qu'un nouveau monde émergera des brumes religieuses quand nous aborderons notre Bible avec l'idée que ce n'est pas seulement un livre dicté une fois pour toutes, mais que c'est un livre qui nous parle aujourd'hui, en cet instant même. Les prophètes disaient couramment, « Ainsi parle l'Éternel. » Thus says the Lord. Ils voulaient que leurs auditeurs comprennent que la parole de Dieu, elle est au présent continu. Nous pouvons employer le passé pour indiquer qu'à tel instant, Dieu a parlé, oui, mais cette parole de Dieu, une fois énoncée, elle continue à s'exprimer. C'est un peu comme un enfant qui est né un jour et continue à vivre, ou un monde qui a été créé à un moment donné et continue à exister. Ces exemples ne sont que des illustrations absolument imparfaites, car voyez-vous, les enfants meurent et le monde est détruit. Par contre, la sainte parole de Dieu, elle subsiste à jamais. Si vous voulez avancer plus dans la connaissance de Dieu, alors approchez-vous de la Sainte Bible ouverte et attendez-vous à ce qu'elle vous parle. Ne venez pas à elle avec l'idée qu'elle est une chose que vous pouvez rejeter comme bon vous semble. C'est beaucoup plus qu'une chose. C'est une voix, c'est une parole, c'est la parole même du Dieu vivant. Prions maintenant. Seigneur, apprends-moi à écouter. Les temps sont bruyants et mes oreilles sont fatiguées par les milliers de sons qui m'assaillent continuellement. Donne-moi l'esprit de ce garçon Samuel lorsqu'il a dit « Parle et ton serviteur écoute ». Laisse-moi entendre ta voix dans mon cœur. Laisse-moi m'habituer au son de ta voix, que ces accents me soient familiers lorsque les bruits de la terre mourront et que le seul son qui restera sera la musique de ta voix qui me parle. Amen. Chers amis, maintenant, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre une parole pour vous encourager, mais aussi pour votre éducation personnelle. Écoutez bien. Le cœur de l'homme a besoin d'un Seigneur véritable, d'un Seigneur auquel ne soit une joie, que ce soit une joie pour lui d'obéir. Il a besoin de se sentir en harmonie profonde, d'aspiration et d'accomplissement avec un être auquel il puisse s'attacher sans réserve, duquel il soit toujours compris. Il a besoin de pouvoir ainsi se livrer dans la confiance absolue, afin de s'en trouver fortifié, et ainsi de connaître toujours plus intimement le cœur de celui qu'il aime. Un autre que Jésus-Christ, votre Seigneur, peut-il offrir à l'homme une pareille satisfaction? Il n'y a aucune note discordante de la part de Jésus dans vos rapports mutuels, car avec lui, il y a lui seulement. La vie, elle peut être une harmonie parfaite. Il peut y avoir beaucoup à déplorer chez vous, tels que la défaillance, la déloyauté à son endroit, la crainte et les péchés. Or, en sa sainte présence, tout cela est balayé par l'amour. L'amour seul demeure, qui répand la paix et qui enfante l'harmonie. Si donc vous êtes appelé à affronter le monde tout en restant serein, il vous faut introduire dans ce monde et dans l'accomplissement de vos tâches la paix de Jésus-Christ et son harmonie. Amen. Et je voudrais simplement vous rappeler que Dieu vous aime, vraiment. Et il est donc de mon devoir de vous aimer de tout mon amour. Et maintenant, je vous enlace tous et je vous embrasse. Et je vous dis, je vous aime, soyez bénis. À demain pour la suite de cette série. Et j'aimerais vous transmettre un ou deux chants que j'ai enregistré il y a plus d'un demi-siècle, en 1952, en Angleterre. Évidemment, le son n'est plus tout à fait parfait, mais vous pouvez recevoir quelque chose du Saint-Esprit dans votre cœur. Essayons.
Tramp on the street, homeless and weak, could be I, but for the grace of God. The seal of my soul could have weakened and bent, had I traveled the byways he's trod. Merciful Father, oh wonderful God, thy hands have spared me these days. May my heart know compassion as a child when she holds a birth with a broken. Not to boast of my strength, but to lend it to the weak and downtrodden. May I always remember things dear to my heart are mine to hold only by the grace of God. Dear Lord, if it weren't for you, I could have been that poor tramp asleep out in the alley tonight. Only but for the grace of God,
I could have been born blind, with no eyes to see your wonderful world that you've made for us. Or I could have been born weak and had to have somebody take care of me for the rest of my days. Thank you, Lord.
Oh, merciful Father, oh, wonderful God, thy hands have spared me these things. May my heart know compassion as a child when she holds a bird with a broken wing. Dear Lord, make me strong, not to boast of my strength, but to lend it to the weak and outlawed. May I always remember things dear to my heart are mine to hold only by the grace of God.
Thank you. gold.